Bonjour, il est midi, on est le deuxième jeudi du mois et vous êtes bien à l'écoute de Croisières et Caravanes sur Prune.
Bienvenue dans cette émission dédiée à la culture du voyage, inspirée par Ella Maillard, l'aventurière d'une époque où le GPS n'était même pas l'ébauche d'un projet.
Croisières et Caravanes revient chaque mois pour un nouveau départ.
Bonjour et bienvenue dans cette quatrième émission de Croisières et Caravanes. Mon acolyte, ma partner in crime, mon bras droit et gauche, j'ai nommé Pauline, ne pouvant être avec nous aujourd'hui, j'animerai l'émission seule, bien que en bonne compagnie. J'ai en effet le plaisir de recevoir Dorian François, voyageur, auteur, éditeur et surtout photographe. Bon, ça rime pas. Dont l'exposition photo se tient à la Géothèque, rue Racine à Nantes, jusqu'au 1er mars. Bonjour Dorian.
Bonjour.
Merci à vous de m'accompagner pour une heure dans Croisières et Caravanes sur Prune. Je me sens un petit peu moins seule derrière mon micro, du coup. Le soleil brille sur Nantes, ça donne envie de sortir, de prendre l'air, même s'il est un peu glacial, d'aller gambader dans la pampa, de parcourir le vaste monde. Bon, à défaut, je vous propose aujourd'hui de partir en voyage dans un pays immense, une contrée si vaste qu'elle couvre à elle seule 5 fuseaux horaires, et où pourtant, il peut faire nuit noire et plein jour à la même heure. Et oui, c'est un pays où il n'y a qu'une seule heure sur 5 fuseaux horaires. Ça vous paraît dingue? Vous êtes à deux doigts d'aller vérifier si c'est une fake news? Aussi improbable que ça puisse sembler, un tel pays existe bel et bien. Ce pays, c'est la Chine. Dorian François, vous avez visité ce pays en 2014. Combien de temps avez-vous passé là-bas et quel a été votre itinéraire?
Alors le voyage qui concerne ce travail, qui s'appelle Solitude, c'était de janvier 2014 à janvier 2015. En fait, ça a été même morcelé en trois étapes pour des raisons de visa. Et c'était un voyage, une itinérance entre 10 grandes villes, donc à peu près dans tout le pays, puisque du nord-est de la Chine, la pointe sud de la Mandchourie, dans la ville de Dalian, le sud-ouest jusqu'à Kunming, le sud-est jusqu'à Hong Kong, et pour l'ouest de la Chine, dans le Xinjiang, jusqu'à Urumqi, donc Urumqi.
Okay.
Plus quelques villes dans le centre. Donc c'est à peu près plus ou moins tous les fuseaux horaires.
Et donc c'est vrai qu'en Chine, il y a un seul fuseau horaire, enfin une seule heure pour 5 fuseaux horaires.
Oui, oui.
Ça doit être un peu déroutant.
Ouf, non, c'est de toute façon, les trajets sont tellement longs que... Non, je sais pas, on n'y fait pas vraiment attention.
Okay.
Parce que je vois que sur ce voyage, par exemple, le train le plus long que j'ai pris, il y en a des plus longs encore, mais c'était 39 heures. Donc,
ouais. Ouais. Après ça, le petit TER de campagne, on oui. L'apprécie, non?
Oui, oui, il fait plus trop peur, ça va.
Alors, Solitude, votre projet photo qui a été publié en avril 2017 par les éditions du Silence et qui est exposé en ce moment à la Géothèque, relate donc ce voyage singulier pour lequel vous vous étiez fixé 4 contraintes. Vous rendre dans 10 grandes villes chinoises réparties dans tout le pays, donc ça on en a parlé, voyager en train, rester une semaine à chaque escale et photographier et écrire tous les jours quoi qu'il arrive. Alors j'imagine que la Chine vous est familière puisque vous expliquez sur votre site que vous vous y rendez régulièrement depuis 2002.
Oui, c'est ça. En fait, en 2002, j'y suis allé pour un voyage à l'époque qui était une sorte de colonie de vacances de grands ados. Puis ça m'avait beaucoup plu. À l'époque, je venais de passer le bac, donc j'ai décidé de faire des études de chinois. C'était à Paris, à l'INALCO. Et du coup, de là, j'ai commencé à aller en Chine assez régulièrement pendant donc une dizaine d'années, sans toutefois faire des travaux photo déterminés. En fait, j'y passais même pour aller ailleurs, puisque assez longtemps, j'allais en Mongolie et passer par la Chine m'arrangeait pour des raisons de transport et de choses comme ça. Et du coup, sur ce voyage, c'est donc le premier où j'ai construit un projet photographique en Chine. Et alors l'idée des grandes villes, c'était... Ce voyage, il est un petit peu à part, parce que du coup, c'est un voyage qui est vraiment que pour réaliser cet objet livre et ce travail. Je serais peut-être pas allé en Chine sinon. Enfin, donc ce voyage, il est un peu particulier. Les grandes villes, c'est parce que je voulais essentiellement voir l'espace urbain pour me mettre dans une position d'isolement et de solitude. Donc au final, d'où le titre du projet. Donc c'est pour ça que j'ai choisi les villes. Les 10, c'était pour avoir un peu une sorte de panel d'un peu toutes les régions du pays. J'ai volontairement juste écarté le Tibet, parce que, à mon avis, que j'y aille ou que j'y aille pas, ou si j'y allais, quelles que soient les photos que j'aurais prises, j'aurais pas pu éviter un côté politisé. Et ce travail autant que possible n'est pas politique, donc j'ai volontairement écarté le Tibet de ce voyage-là. Et ensuite, oui, voilà, écrire et photographier tous les jours, surtout voyager seul. Ça a été le... En fait, il y a eu pas mal de règles que je me suis fixées avant de partir pour essayer de sortir quelque chose.
Voilà. D'accord. Est-ce que c'était une manière de renouveler un petit peu votre regard sur ce pays ou peut-être pour renouveler votre travail?
Ouais, peut-être plus pour renouveler le travail. Je crois que j'étais à la base surtout très content de faire un boulot en Chine. Penser avec une vision professionnelle derrière, mais en fait il est pas devenu ce que je pensais de ce que je voulais être. Ce que je pensais parler de la Chine, je pensais parler des Chinois, d'où cette idée d'avoir 10 grandes villes, de donner un panel du pays à voir. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure du voyage, notamment surtout à l'écrit, j'ai en fait plus du tout parlé de la Chine. C'est ce qui s'est passé et je m'attendais pas à ça. Toutes ces règles d'isolement ont fait que dans tous ces longs moments dans les villes où je marchais tous les jours, pendant, je sais pas, une moyenne de 5-6 heures par jour, hein, pendant tout le voyage. Donc c'est beaucoup de temps seul, ne voyager avec personne, très peu me lier avec les gens en chemin, parce que c'était encore une fois des règles, plus les longs trajets en train de 14 à donc 39 heures. Tout ça a fait que j'ai commencé à remplir le vide par l'écriture. À force d'être seul dans le silence, on écrit. Je pense que à peu près tout le monde qui voyage le fait d'une manière ou d'une autre. Et au fur et à mesure du voyage, c'est plus du tout de la Chine. C'est des histoires d'enfance, de ma famille, de mon grand-père. Voilà, c'est la France en fait qui est remontée dans le voyage. Et du coup, c'est le principe de ce bouquin, c'est que les textes se séparent des images et le voyage intérieur, finalement, n'est presque plus chinois.
D'accord. Donc, ça fait un parallèle entre le voyage intérieur et... donc, le voyage intérieur écrit
et le voyage photographique.
Tout à fait.
Exactement. Ça n'aurait pas pu être fait ailleurs qu'en Chine, pour moi, à ce moment-là. Mais finalement, là, pour le coup, la Chine était une excuse.
Alors, quand on parle de la Chine, quel son ça vous évoque ? Est-ce qu'il y a une ambiance sonore qui vous vient à l'esprit ?
Les restaurants, je dirais. Les restaurants de rue. Le matin. Les raviolis du matin, au petit restaurant, au plus tôt possible de mon réveil. Ouais. Commander à manger, entendre les gens manger. La vapeur. Ouais, les restaurants.
C'est dense comme ambiance sonore ? On entend beaucoup de voix, beaucoup de... peut-être de musique.
Ça dépend. Celle que j'ai en tête, pas forcément, parce que ça serait des petits restaurants dans des petites rues. Justement, quand ça se calme un petit peu, c'est là où où j'arrive à me retrouver en Chine. Quand y en a partout, qu'il y en a tout le temps, c'est... En tout cas, pour nous, je pense français, c'est compliqué à se retrouver là-dedans.
D'où le silence. Alors, je vous propose maintenant, du coup... une immersion auditive dans l'Empire du Milieu avec un carnet sonore d'Olivier Meiss.
Un son étrange et agréable. Dans le centre-ville, le Routon de Qingjiang. Un vieux quartier, à ce jour, encore épargné de la destruction. Un labyrinthe de petites rues, de ruelles, de maisons basses. Ici vit la famille Wang depuis des générations. La mère, le père et Wang Sentianan, leur fils de 21 ans. il fait beau aujourd'hui, donc les oiseaux sont très joyeux. Soyez tranquille, ne parle pas, ne fais pas de bruit. Tout au début, c'est seulement un oiseau.
对，就买了一只，慢慢的越来越养越多，越养越多。
Tout d'abord, j'achète un oiseau et puis je, comment dire, accumule petit à petit et puis jusqu'à maintenant une soixantaine.
就是从小就喜欢，可能就是遗传吧，都因为家里人也都喜欢这鸟什么的。
Quand j'étais très petit, mes parents aiment beaucoup.Les animaux, donc un peu comme un héritage.
对对对，因为他这些养鸽子什么的都是老北京的，就是，以前皇上什么的就喜欢这些东西，都是传下来的。
Auparavant, l'empereur aime aussi tenir des oiseaux comme ça, donc c'est une tradition chinoise pour tenir des oiseaux.
鸽子就是代表和平。
Le pigeon représente la paix.
Chaque
jour à 8h ou 9h, je me lève et je monte pour lâcher des pigeons. Et puis je fais le nettoyage.
完了，等鸽子飞完了以后，回来喂食，观察它。
Quand ils reviennent, je les nourris et puis fais les observations sur les oiseaux.
他们只有就是品种的名称，各自没有名称。
Ils n'ont pas de nom précis, mais je les distingue par les genres.
我想这个，我感觉，他们就是我的朋友，就是说话好像能听懂。
Je pense que j'ai une communication avec ces oiseaux parce que je les considère comme mes amis et puis je parle avec eux et ils ont l'air de me comprendre.
它就是都是到点了以后，基本上就是大家一块儿轰鸽子，所以能混在一起飞。
Quand les gens dans ce quartier lâchent les oiseaux presque en même temps, les oiseaux se groupent parfois dans le ciel.
那就是可以，可以知道它在什么方向，就是在什么位置。
Avec les bagues sifflantes, je peux distinguer où se trouvent mes oiseaux.
就感觉挺自豪的，因为天上也有自己的，就是自己能控制的。
Quand je lâche les oiseaux, je me sens très fier parce que dans le ciel, ce sont mes oiseaux qui volent.
挺喜欢这个声音的。
J'aime ces bruits.
Ce个主料就是竹子，竹子有是竹子的，有是苇子的。对，就是苇子，就是苇塘里边的那种东西，知道吗？
是 bug, c'est plante, est fait en bambou。
嗯，完了，这就是，把鸽子的尾巴夹住这个，完了拿绳子绕上，就是系上就行了。
On la met parmi les plumes des oiseaux à la queue, et puis on utilise des fils pour les fixer.
形状不一样，声音都不一样。对，我觉得我会的，因为从小就是也受家里的就是这个环境影响，祖祖代代都是喜欢这些鸟什么的。
Je pense que je vais continuer cette habitude pendant toute ma vie, parce que c'est une influence familiale. Mon père, mes grands-parents aiment les animaux, donc je continue comme ça.
就是如果我们这片叫拆迁的话，我搬到楼房还是会。继续养这些动物的。
Si notre quartier sera détruit dans un jour, je vais continuer mon habitude de maintenir ces animaux.
这个没问题，现在因为好多平房都拆迁了，搬楼房里，他只要有这种喜好，永远会保持的。
Beaucoup de buildings se dressent ces dernières années. Si tu es très passionné pour les oiseaux, je crois on peut maintenir cette habitude.
我可以在自己的阳台呀。在自己的阳台搭出了一块地儿，或者占用阳台的一部分。
Je pense qu'on peut réserver une partie du balcon pour tenir des oiseaux. 再见，再见。再见，
再见，再见。
他坏了，他
哎，这样找那谁他们家鸟？
再见，
斯拉夫基
和欧霍布瓦。
老刘他们家那电工他们家那鸟。
欧霍布瓦。
现在还有一个呢，还有一个也能说十多句话呢。
啊、
我爸没在家，我爸在家找那个什么。要不你让他等一会儿，让我爸给你找一鸟，他会说十多句话。
Nous venons d'écouter Pigeon Piquinois, un carnet sonore d'Olivier Meiss. Vous pouvez retrouver le travail d'Olivier sur le www.silenceradio.org et le lien vers ce carnet sonore sera disponible sur la page de Croisière et Caravane sur le site de Prune, www.prune.net, ainsi que sur notre page Facebook.
Croisière et Caravane sur Prune.
Dorian François, est-ce que les sons que nous venons d'écouter ont réveillé des souvenirs en vous ?
Ça m'a rappelé la ville de Kunming, donc dans laquelle je suis passé durant le voyage pour Solitude, qui est donc au sud-ouest de la Chine, où il y a un marché aux oiseaux. Et en fait, Kunming a fait partie de mon tout premier voyage en 2002. Et quand j'y suis donc retourné là en 2014, ça m'était resté un petit peu en tête, parce que le voyage, d'ailleurs, si je me souviens bien, je l'ai écrit dans le livre, c'est un peu perdu dans ma mémoire, je me souviens pas de tout, mais je m'étais souvenu du marché aux oiseaux que j'ai retrouvé, qui est encore là. Donc même si Kunming a bien sûr beaucoup changé, comme beaucoup d'endroits en Chine, maintenant il y a des Starbucks, des McDo, C'est plus écrit en chinois partout, c'est doublé en pinyin, donc c'est-à-dire c'est en gros le chinois avec notre alphabet occidental. Donc pour pouvoir lire, enfin voilà, la ville forcément bien sûr s'est transformée, a évolué, mais le marché est toujours là. Et voilà, je suis resté une après-midi à prendre quelques photos, à regarder les oiseaux avec les mecs. Ouais.
Et aussi pendant l'écoute du carnet, vous me disiez que vous reconnaissiez l'accent pékinois assez facilement dans ce carnet sonore.
Oui, oui. Bah, quand on a fait un peu de chinois, ouais, c'est cette façon de mettre des R à la fin des mots. Ouais, c'est une sorte de. C'est à la fois un dialecte, le pékinois aussi, où là je comprends rien quand il parle vraiment pékinois, et puis après c'est juste une trace d'accent, comme on a nous en France.
Alors, ça me permet de faire la transition sur le morceau qu'on va écouter. Un morceau d'un groupe de pop chinoise, My Little Airport, qui a eu la bonne idée de porter un nom anglophone parce que sinon je serais bien incapable de le prononcer. Bon, par contre, le titre étant écrit en sinogramme sur YouTube, là par contre je suis vraiment dans la mouise. Donc maintenant je vous propose d'écouter ce morceau de My Little Airport.
<音>在陌生女子懷內失常你說我長得跟你夠愛很長才令你突然這樣憂傷你不用那麼傷心早晚你會找到一個喜歡你的人不是是我自己不想再跟人一起我覺得我跟其他人不能相處 如果不合适就早点分开以后的日子还长呢我说人生的经历总无常你又何必介怀心伤一切苦与乐最终都一样是为旅途增添花样我一路行你一路安慰我你跟他一起多久为什么要分开
我越讲越激动直到走的时候你问小费可以多给一点吗我先突然没那么伤心由不相识再度交心一场然后又回复正常四十分钟的关系似梦一样人生经历总无常
À défaut de pouvoir vous donner le nom du morceau, je me contenterai de dire que c'était la pop mignonne de My Little Airport, un morceau qui parle probablement d'amour vu que la chanteuse fait des cœurs avec les mains dans le clip. Alors pour revenir sur votre travail, Dorian, je me demandais, qu'est-ce qui est venu en premier ? Est-ce que c'est le voyage ou la photographie ? Ou peut-être que l'un ne va pas sans l'autre ?
Le voyage. C'était d'abord le voyage, parce que jeune, avec le recul maintenant, la chose qui était importante, c'était de partir de France. Donc il y avait une part de fuite très claire. Enfin, pas claire à l'époque, mais aujourd'hui, je le sais, très claire dans le voyage. Et la photo était à la fois une excuse et un plaisir pour continuer à voyager. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des années, des voyages, voilà, la photographie s'est installée très clairement comme une manière de pouvoir continuer à voyager. Et puis au début, moi, je suis parti sur une vision photographique très reportage, c'est-à-dire que jeune, j'ai rêvé de la plupart des grands photographes de l'agence Magnum. Je pensais partir en zone de guerre, en zone de conflit, chose que j'ai jamais faite et qu'a priori je ne ferai pas. Enfin, on ne sait pas, mais donc cette idée d'aller raconter le monde, d'aller à l'étranger, montrer les autres, faire des photos, faire des bonnes photos, fortes, les mettre ensemble dans une série cohérente, et puis faire quelques légendes, un texte d'introduction, et puis publier. Je suis parti sur cette idée-là, puis ça a changé ensuite.
Alors qu'est-ce qui a changé ?
Alors sur pas mal d'années, mais Solitude pour le coup est réellement l'aboutissement de cette évolution, bah, arriver à quelque chose de plus intime, de plus intimiste, finalement arriver à une sorte de photographie autobiographique, après à travailler pour que ça soit quand même partageable. C'est pas non plus juste faire sa psychanalyse devant tout le monde, mais il y a forcément quelque chose d'analytique là-dedans. Quand on parle de soi et qu'on décide de le publier, de le rendre public, mais voilà, dans une dose, dans une, j'espère un bon équilibre. Mais en tout cas, parler de l'intime, parler de ce qui, des doutes qu'on a, des peurs, de raconter le monde à travers soi vraiment. Voilà, donc ça change forcément les photos. Mmh. Et puis c'est comme ça que moi, du coup, après, j'ai voulu écrire aussi.
Oui, justement, vous êtes photographe, auteur, éditeur. C'est pour maîtriser le processus de production de bout en bout que vous faites tout ça?
C'est pas tant pour maîtriser, mais ça s'est fait petit à petit, on va dire. Moi, je pense comme beaucoup de photographes, parce que je faisais des photos, je me disais un jour je ferai un livre. La vision du livre, qui est un peu le graal photographique, l'idée de son livre dans une bibliothèque, qui m'a pas forcément quitté, hein, mais voilà, ça paraissait inatteignable pendant longtemps, compliqué. Et puis finalement, un jour, je me suis lancé avec un autre projet qui est en complète auto-édition. C'est une série, c'est autre chose, mais qui s'appelle Short Stories. Donc j'en ai montré mon dernier livre à Nantes, justement à Pollen, en novembre dernier. Je suis parti de ça, et puis d'un coup, je me suis aperçu qu'en fait, faire un objet livre, dans une certaine mesure, c'est-à-dire dans une édition pas trop. Enfin, c'était possible. Voilà. Je pouvais donner vie à mon travail dans des pages. Et puis, j'aime bien la mise en page. Alors, je travaille pas tout seul, hein. J'ai une amie graphiste avec qui je travaille, mais bon, je mets quand même en place les projets d'abord. Ça me plaît. Et donc, au final, oui, c'est une certaine maîtrise, mais par plaisir, quoi.
Et donc vous me disiez hors antenne que vous avez monté votre propre maison d'édition avec un ami à vous, un collègue.
Mon père. En fait.
Avec votre père, d'accord.
Ah oui, c'est avec mon père. On a créé les éditions du silence pour Solitude donc l'an dernier. Donc on a déposé les statuts, voilà, la maison existe. Et puis donc on commence sur des projets, on va dire on se rend service, puisque donc le premier c'était mon livre. Le deuxième livre, on vient juste de le recevoir, c'est un recueil de poésie qu'il a écrit. Et le prochain livre verra le jour en septembre, qui est encore un travail à moi, qui est sur mon grand-père. Voilà, et puis après, je pense qu'on va ouvrir la maison à des projets extérieurs, mais c'est vraiment une maison...
Maison familiale.
Maison familiale, oui, certes, mais aussi l'envie, en tout cas, de donner vie à des auteurs et à leurs travaux. Donc là, ça commence avec nous, parce que aussi, moi, ça me paraît important de bien connaître les choses avant pour accueillir dignement quelqu'un d'autre et un travail extérieur. Mais après, l'idée, c'est pas de faire beaucoup de livres, c'est d'en faire certains et de bien les faire, d'avoir une notion de livre-objet, d'édition relativement limitée. Hein, Solitude a été tirée qu'à 200 exemplaires, le recueil de poésie qu'à 150.
Est-ce qu'on peut avoir le nom du recueil de poésie de votre père ?
Redevenons le vent.
Redevenons le vent ?
Oui.
C'est beau. Alors, ce recueil a été tiré à combien d'exemplaires ?
150.
150. Et on peut les trouver où ? Que ce soit Solitude ou Redevenons le vent ?
Alors, Redevenons le vent, comme j'ai dit, je viens juste de le recevoir, donc je suis en train en ce moment de le montrer, notamment à la Maison de la Poésie à Nantes. Solitude. Alors au début, en fait, Solitude c'était une exposition pour le mois de la photographie 2017. Ça avait été exposé au Musée d'Art et d'Histoire de Saint-Denis, présenté par la galerie Baudouin-Lebon. Donc c'est là où le travail a vu le jour et le livre d'abord a été présenté au musée. Et depuis, il est en librairie, donc dans un certain nombre de librairies que j'ai démarchées directement. Donc aujourd'hui, à Nantes, on peut le trouver à la librairie Coiffard, à la Géothèque, bien entendu. Et à Paris, il doit être encore à la Chambre Claire, à Placard, au Bal, au Jeu de Paume et au Mont-en-l'Air.
D'accord.
Ouais. Et à Bruxelles aussi, au Tipeee Bookshop. Voilà.
Bon, c'est parfait. Parce que on parle de livres et ça me permet d'enchaîner directement. Puisque Pauline n'est pas là pour le faire, je vais introduire ma chronique littéraire moi-même. Donc, mesdames et messieurs, chers auditeurs, c'est maintenant le moment tant attendu de la chronique littéraire.
Croisière et caravane !
Cette quatrième émission, avec pour thème la Chine, est pour moi l'occasion de vous parler enfin d'une exploratrice intrépide et probablement aussi un peu insouciante. Celle qui a inspiré le nom de cette émission, mon auteur de littérature voyageuse préférée, Ella Maillard. J'ai découvert son œuvre avec Oasis Interdite, un livre que j'avais trouvé par hasard dans la bibliothèque de ma grand-mère et dont le titre m'avait paru prometteur. En fait, c'est un peu grâce à lui que je suis ici aujourd'hui à vous parler littérature de voyage. Après celui-ci, j'en ai avalé un bon paquet et ma bibliothèque est maintenant composée en très grande partie de récits de voyage. Le sous-titre du livre vous donne déjà une idée du tempérament de son auteur. Oasis Interdite, de Pékin au Cachemire, une femme à travers l'Asie centrale en 1935. Dans ce livre, Ella Maillard raconte comment, accompagnée de Peter Fleming, oui, le frère de Ian Fleming, le créateur de James Bond, qui s'est largement inspiré de son voyageur de frangin pour le personnage, accompagnée de Peter Fleming, donc, correspondant au Times, ils vont traverser la Chine d'est en ouest pour tenter d'atteindre le Xinjiang, où la guerre semble-t-il fait rage, et qui est fermée aux étrangers depuis 4 ans. Personne ne sait ce qui s'y passe, et c'est pour ça qu'elle veut s'y rendre. Elle décrit de manière simple et efficace les lieux, les gens, les situations, et on retient son souffle chaque fois qu'un obstacle vient se mettre en travers de leur route, ce qui arrive avec une certaine régularité. Roman d'aventure, c'est aussi un voyage dans le temps dans lequel nous entraîne Ella Maillard, car même si les faits relatés datent de moins d'un siècle, on a parfois l'impression d'être retourné au Moyen-Âge. Petit extrait. Nous progressions lentement. Dans les champs, où déjà perçaient quelques pousses vertes sous le ciel bleu pâle, des cercueils de bois étaient comme abandonnés à la dérive, selon l'immémorial usage du paysan chinois qui se borne à déposer ses morts sur la terre ancestrale. Ça et là, une stèle embourbée, une allée d'archaïques animaux de pierre qui jadis avaient mené vers la tombe d'un riche, semble attendre avec patience la venue de l'horizon vaporeux. Pour la première nuit, nos trois camions firent halte tout près de Sienne, dans un village boueux et noir comme de la poix. Après avoir avalé des pâtes à l'eau chez le gargotier du coin, pour quelques sous, nous avions dormi entre des murs de terre battus, en partie écroulés. Dans un bol ébréché, une mèche de coton traînant dans de l'huile nous éclairait à peine. Le second soir, dans un bourg aux auberges combles, nous avions rendu visite à un père italien qui soupait au milieu de ses ouailles lorsque nous le surprîmes. Désolé de ne pouvoir nous héberger, il nous fit présent de beurre en boîte, au luxe, préparé par les sœurs franciscaines du Haut-Pey. Depuis des années, sa vie s'écoulait là, toute faite de dévouement. Lors de famines ou de brigandages, il prodiguait ses soins aux chrétiens. Longtemps, je me souviendrai de l'immense Madone souriante qui, dans son cadre doré, couvrait toute la hauteur d'une paroi du réfectoire. À la fin du troisième jour, quelle ne fut pas ma surprise de voir se dresser au loin une église, comme celle de chez nous, transplantée sur ce continent où rien ne monte plus haut que le rez-de-chaussée. Les Chinois ne voient pas d'un bon œil ces flèches qui transpercent les bons esprits et les empêchent de descendre sur terre. C'était Qianshao. Dans la grande rue, les habitants devisaient en fumant leurs longues pipes à foyer minuscule. Le sol était si glissant que les Chinoises aux pieds mutilés s'appuyaient sur un long bâton. C'était donc un extrait d'Oasis Interdite d'Ella Maillard, publié chez Payot. À l'occasion de cette émission, j'ai aussi découvert un autre récit de voyage concernant la Chine et écrit, lui aussi, par une femme. 2008, autre époque, autre voyage. Clara Arnaud est partie seule vers l'est de la Chine, dans des régions qu'ont traversées 73 ans auparavant Ella Maillard et Peter Fleming, dans le but de parcourir à pied avec deux chevaux de bas, le pays ouïghour et les hauts plateaux tibétains. Son voyage est motivé par le désir d'être seule, dans ces terres austères où l'homme n'est qu'une bien petite chose. On y découvre une Chine ô combien différente de celle décrite par sa prédécesseur, le temps et la modernité ayant fait leur œuvre. Sur les chemins de Chine, un livre de Clara Arnaud paru en 2010 aux éditions Gaïa. Enfin, je n'ai pas eu le temps de lire « Courrier de Tartarie » de Peter Fleming, sa version du voyage entre Pékin et Srinagar avec Ella Maillard. Mais après avoir parcouru les premières pages, je ne saurais que trop vous le recommander, ne serait-ce que pour avoir un point de vue british et donc forcément second degré sur ce périple. « Courrier de Tartarie » de Peter Fleming aux éditions Payot aussi. Fearless, sans peur, comme ces voyageuses et ce voyageur dont nous venons de faire le portrait. Fearless, c'est un morceau de Jiai Shu et c'est ce que nous allons écouter maintenant. C'était Fearless de Jiai Shu, un chanteur taïwanais qui, à ce qu'on m'a dit, fait fureur en Chine. Alors Dorian François, après les quelques livres que j'ai cités, est-ce que vous aimeriez en ajouter à la liste? Est-ce qu'il y a des livres des récits de voyage ou des romans chinois qui vous viennent en tête?
Il y a des auteurs contemporains comme Mian Mian ou Shan Sa. Mian Mian, c'était les bonbons chinois. Moi, j'avais lu il y a quelques années. Et Shan Sa, c'est la joueuse ou le joueur de Go, si je me souviens bien. Et il y a longtemps, un peu dans la veine des Lamaillard, il y a Alexandra David Néel avec ses grands récits de voyage, notamment de Paris à Lhasa. Alors c'est plus ou moins la Chine, mais en tout cas c'est cette idée d'une femme seule dans les années 20 qui traverse ces pays. Enfin voilà, à la fois en tant qu'occidentale et en tant que femme dans ces années-là, c'est voilà, ça m'avait beaucoup marqué ça.
Mmh. J'avoue que c'est ouais, et Lamaillard était la première d'une longue série d'auteurs souvent femmes, mais pas que, qui ont voyagé à des époques où, comme le dit notre petite bande-annonce de Croisière et Caravane, à une époque où le GPS n'était même pas l'ébauche d'un projet, c'est quelque chose qui me fascine.
Oui, et puis où on sent quand même qu'il y a une fascination de l'occidental sur l'Orient et l'oriental, hein, parce que là, il y a des mots, là, j'ai entendu ancestral, archaïque, ou des choses comme immuable. Enfin, c'est un peu tout ce fantasme aussi qu'on a en tant qu'occidentaux de l'Orient. Alors, dans ces années-là, c'est un peu différent, parce qu'ils sont en plein dedans, mais aujourd'hui, ça reste. Hein, je crois qu'il y a quand même encore un peu de post-colonialisme dans la fascination pour l'Orient et dans notre façon d'appréhender notre idée de la Chine, notre idée de l'Asie. Voilà. Moi, je travaille pas mal là-dessus, par exemple, essayer de me détacher de ça, de comprendre ça.
Ouais, bah, c'est pour ça que j'ai choisi de passer ce morceau de rock-pop chinoise, histoire de sortir un petit peu des clichés, des images qu'on peut avoir sur la Chine, d'une musique justement ancestrale.
De la flûte, un chapeau pointu et un buffle dans les rizières. Quoi.
Voilà. Ah, oui. Et alors vous qui avez voyagé un petit peu partout en Chine, est-ce que justement ces images d'Épinal existent encore, survivent ou est-ce que...
Oui. Bah, oui, parce qu'il y a toujours des rizières, il y a toujours des paysans et... Et pour eux, ils jouent rien. Leurs chapeaux sont là pour les protéger du soleil et les instruments de musique sont là pour perpétuer des traditions. Oui, ça existe. Mm. Je parlais plus du regard que nous, extérieurs, on peut porter dessus. C'est pas l'existence de ces images que je mets en doute. C'est un fait dans une certaine mesure. C'est le regard que nous, on y porte. Ou c'est souvent aussi l'idée de chercher ça coûte que coûte quand on y va. De dire que c'est ça la vraie Chine. Ça, c'est une tentation, par exemple, je pense assez récurrente, déjà chez les voyageurs en général, et encore une fois, sur les Occidentaux qui vont en Orient ou ailleurs. Hein, je parlerai pas de l'Afrique, parce que je connais moins, mais puis il y a des choses plus politiques qui se mélangent là. Mais cette idée de venir chercher quelque chose, quoi, de dire voilà, la vraie Chine, c'est un mec dans son village et les grands immeubles, les Starbucks et le rap chinois, non, c'est faux, c'est pas la vraie Chine, etc. Ce qui veut rien dire, en fait. Parce que la Chine, elle est ce qu'elle est. Elle est multiple, comme tout le monde, et encore plus dans un pays qui est grand comme ça.
Qui est grand comme 17 fois la France, vous me disiez tout à l'heure.
Ouais, c'est le chiffre que j'ai retenu des années à l'INALCO. Je sais pas si c'est vrai, mais je me souviens de ça, oui.
On fera une recherche sur Internet pour vérifier. Pas de fake news dans cette émission. Alors, voilà, j'ai perdu le fil.
Non, mais par exemple, parce que c'est en ça que, si je reviens sur l'idée du travail autobiographique ou intimiste, c'est en ça que ça m'apparaissait, moins, en tout cas moi, la façon la plus juste peut-être de venir raconter la Chine, c'est-à-dire de la raconter avec ma propre histoire. Et après, la photographie... Elle vient apporter à l'écriture quelque chose de réel, qui est là. En tout cas, dans ma pratique photographique à moi, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de retouche, il n'y a pas d'invention. Enfin, ça se discute, mais en tout cas, on est sur le réel. Donc, elle pose la Chine, voilà, telle qu'elle est, visuellement. Mais à l'écrit, voilà, je viens avec moi-même, avec mes propres enjeux. De toute façon, hein, quand on voyage, on vient toujours avec ce qu'on a apporté. Il y a cette citation très connue de Nicolas Bouvier, par exemple. Hein, on croit que l'on fait un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. Hein, voilà, je crois qu'il l'a bien dit pour tout le monde. Quoi.
Ce cher Nicolas, j'espère qu'on aura l'occasion, un de ces quatre, de le citer dans cette émission. je vais enchaîner sur la chronique culturelle, sans transition. Je suis pas très bonne pour les transitions. Côté culture, ce mois-ci, je vous suggère très fortement d'aller donc faire un tour à la Géothèque pour admirer les magnifiques photos de notre invité du jour, Dorian François. Dorian François qui a eu la gentillesse d'amener son livre, qui est un objet absolument magnifique. Je le tiens dans mes mains. Il y a un coffret de carton, non de...
Ouais, c'est du carton brut.
Ouais, de carton brut.
Comme un fourreau, en fait, qui contient 5 livres.
Voilà, plutôt un fourreau, qui contient 5 magnifiques livres, en noir et blanc, avec ses photos. Donc, ce sont des livres en accordéon. D'un côté, on a les photos, et de l'autre côté, on a vos textes.
C'est ça.
Alors, pourquoi ce format ?
Il y avait plusieurs enjeux. Il y avait l'enjeu déjà de qu'il y avait la matière littéraire et la matière photographique à rassembler dans le livre. Et ensuite que dans la matière photographique, entre guillemets, la moitié des photos sont panoramiques. Donc il fallait trouver un format où les panoramiques pouvaient vivre sur la page et en même temps on pouvait lire. Donc un très grand livre à taille d'une panoramique avec mon ambition de faire lire, ça aurait été vraiment pas du tout aisé et pas agréable. Et le Leporello du coup... parce que on dit que c'est un Leporello, l'accordéon, du coup, a permis de, à la fois en dépliant le livre, de faire vivre les panoramiques. Ça faisait un clin d'œil à la reliure, parce que c'est une reliure traditionnellement chinoise, donc ça faisait un petit clin d'œil culturel quand même en passant, le livre, qui est une vieille tradition en Chine. Et surtout, dans mon idée, c'est que, comme je l'expliquais tout à l'heure, pour moi, dans ce travail, les photos et les textes sont un seul et même, enfin, sont deux voyages dans un voyage. Donc, il fallait que ce soit relié, mais tout de même séparé. C'est pour ça que sur ce travail-là, je voulais pas que sur la même page, on ait les textes et les photos ensemble, parce qu'elles n'ont rien à voir. C'est tout le principe de ce travail-là. C'est qu'au fur et à mesure du voyage, au fur et à mesure du livre, qui est chronologique, ça se détache, c'est-à-dire que quand on est au chapitre 3 ou 4, si je parle de mon grand-père, on se doute bien qu'il va pas être sur la photo. Donc voilà, c'est l'idée. On prend le livre d'un côté, on le prend de l'autre, on a deux voyages. Et 5 livres, parce que 5 chapitres, parce qu'il y a cette notion un peu d'itinérance, de progression.
D'accord.
Voilà.
Donc Solitude, un très bel objet, un très bel ouvrage. Aussi une, je suppose, une très belle exposition que j'ai pas encore vue, mais très certainement une très belle exposition qui se tient à la Géothèque jusqu'au 1er mars, si je ne m'abuse.
C'est ça.
Donc la Géothèque, bon, clairement, vous l'aurez compris, ma librairie nantaise préférée, qui se trouve au 14 rue Racine à Nantes. Et le vernissage de l'exposition aura lieu ce soir à partir de 18h30.
C'est ça.
Je vous encourage donc à y aller.
Bienvenue.
Je vous suggère aussi de faire un tour au Festival Atlantide qui lui se tiendra du 15 au 18 février au LU et dans d'autres endroits à Nantes, des librairies, la médiathèque Jacques Demy ou plusieurs médiathèques je crois, et dans un cinéma. Alors le Festival Atlantide, c'est un festival de littérature, ce sont plus d'une cinquantaine d'écrivains français et internationaux qui se retrouveront à Nantes pour parler littérature au pluriel. Rencontre, lecture, projection. Bon, il y a forcément un événement qui vous intéressera parmi tous ceux proposés. Donc Atlantide, du 15 au 18 février, à Nantes. Comme il nous reste le temps, on est bon aujourd'hui, comme il nous reste le temps, je vous propose d'écouter un dernier morceau de musique chinoise. Cette fois-ci, c'est du hip-hop avec MC Hot Dog.
Hip-hop 是防腐剂，哈狗帮里每个人是木乃伊。我 存在的冲突，但不敢加入。听我饶舌神父讲解 hiphop 圣经的启示录，耶稣有十诫，哈狗帮有十章，就让我来 rap， 现在就让我来跟你讲 yo。第一章，上帝也为饶舌疯狂。第二章，谁说传播中文饶舌福音没力量？第三章，买我 CD 的人上天堂。第四章，要去做礼拜，在哈狗帮 hiphop party 教堂。第五章，听我传教，回家记得祷告，生活才有希望。第六章，撒旦吃麻辣，耶和华吃琵琶。hiphop don't stop never give up， 休又乐我才能继续骂。蔡依林，第七章，我每天打 hiphop 是我的圣母玛利亚。演唱会的时候有没有来超声往里撒？第九章 hiphop 信仰就是让我不一样。最后一章，第十章，嘴巴这张，跟我附送一遍哈狗帮万岁，哈利路亚。hiphop 我们都在同一挂，街头传教士背 hiphop 十字架。hiphop 老乡到底谁像苏拉？还是哈狗帮狗最不出象牙？哈狗帮的精神告诉你，身为 hiphop 人，死为 hiphop 魂。哈狗帮没有麦克风，要怎么呼吸生存？不在乎一双双对我不屑的眼神，我只在乎我的两个喇叭还不够大声。一个灯，两个灯，三个灯，这是我的表演，不用你来帮我评分。饶舌歌手 MC 考试得几分，想干掉我？等到有一天你能够上了舞台时候再说，感受到没有？哈狗帮在背后，自己可以选择做敌人或朋友，所以老夫子说。成见立定成佛，我们都在同一挂，街头传教士背 hiphop 十字架。hiphop 到底谁像苏拉？还是哈狗帮狗最不出象牙？我们都在同一挂，街头传教士背 hiphop 十字架。hiphop 到底谁像苏拉？还是哈狗帮狗最不出象牙？我们都在同一挂，街头传教士背 hiphop 十字架。hiphop 到底谁像苏拉？
Croisière et caravane, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, zut, on l'a refait. Déjà, d'une, nous venons d'écouter MC Hot Dog avec encore une fois un titre que je suis incapable de prononcer. Et donc, Croisière et caravane, c'est fini pour aujourd'hui, malheureusement. Mais je vous donne rendez-vous le 8 mars prochain pour un nouveau voyage. Encore un grand merci à Dorian François d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été en notre compagnie toute cette heure.
Merci à vous de m'avoir invité.
Avec merci. Plaisir. Un grand merci aussi à Victor pour la technique. Merci, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Vous retrouverez les références du carnet sonore que nous avons écouté au début de l'émission, ainsi que les références des livres dont nous avons parlé, sur le site de Prune, www.prune.net. ainsi que sur la page Facebook de notre émission, comme d'habitude. Et dès que nous pourrons, nous mettrons le podcast en ligne. Voilà, je vous souhaite une très belle journée sous le soleil nantais. Je sais que ce n'est pas du tout le cas dans quasiment tout le reste de la France. Mais nous, on est à deux doigts de pouvoir sortir les tongs.
C'est le printemps ici.
Exactement. Il n'y a plus de saison, ma bonne dame. C'est du grand n'importe quoi. Et sur ce... Je vous souhaite donc une très bonne journée.
Croisière et caravane sur Prune.